France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Il est des films dont le succès est immédiat, planétaire ou presque. Le cercle des poètes disparus est de ceci, souvenez-vous. L'engouement, surtout chez les jeunes spectateurs, était passionné, au-delà sans doute de la cinéphilie. Dès 1992, les mardis du cinéma se penchaient sur ce succès et sur le thème, les thèmes d'un film qui semblait déjà, ce film, film culte, si l'on accepte cette dénomination un peu rebattue.
Gentlemen, what are the four pillars?
Tradition, honor, discipline, excellence.
Messieurs, quels sont les quatre piliers?
Tradition, honneur, discipline, excellence.
Quand on la regardait en classe, c'était... On partageait tous les mêmes sentiments au même moment. On montait sur les tables, non, pas tous, personne même. Je trouvais ça... Vis-à-vis de la classe, je trouvais ça vraiment formidable.
I said leave, Mr. Keating.
Mardi du cinéma... Le cercle des poètes disparus de Peter Weir. La critique avait fait la fine bouche, mais les spectateurs, surtout les jeunes, continuent à pleurer et applaudissent debout.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down.
This is your final warning, Anderson.
Quand on voit le film, on ne voit pas forcément un film américain, on voit plutôt un film européen. Donc on s'attache facilement au film, on s'introduit beaucoup plus facilement au film parce que ça nous ressemble, ça ressemble plus à notre comportement en tant qu'Européen qu'à un comportement américain.
La façon, je crois que la façon d'être des enseignants et tout, c'est pas vraiment européen. Je trouve ça, c'est quand même... On ressent quelque chose de... C'est américain, on voit pas vraiment les racines européennes.
Charlie, j'ai été pris. Je vais jouer Buck. Je vais jouer Buck. C'est vrai, j'ai mon principal.
C'est drôlement bien.
Il va falloir bosser, hein.
Attends, écoute. Attends.
Je crois que par moments, il faut savoir s'écraser. Puis il y en a d'autres. Quand on est sûr de soi, je crois qu'il faut pas... Faut pas se dire, moi, on ferme là parce que c'est un prof et il faut continuer sur sa lancée.
Cet exercice ne sera pas noté, messieurs. Promenez-vous, c'est tout.
L'idée générale, c'est que Keating a vraiment tout fait pour montrer à ses élèves qu'ils étaient libres et pas dépendants de ce conformisme, pourtant tellement présent autour d'eux. Et il a quand même échoué à la fin. À cause donc des quatre piliers de l'administration.
Chris, elle est faite pour moi.
Café.
Tout le monde pense à se ressembler à ses élèves, puisque finalement, il prouve une certaine indépendance. Rien que Neil prouve son indépendance, bon, c'est vrai, en suicidant, mais c'est pas ça. Il y a aussi... Celui qui monte sur la table... Je sais plus comment il s'appelle.
Anderson.
Et
le résultat de notre attachement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici. C'est pourquoi vous, les parents...
Le cercle des poètes disparus est un film qui a marqué tout le monde sauf les parents. Parce qu'en fait, les adolescents l'ont tous considéré comme une leçon de morale, alors que les parents qui ont quand même vécu dans une certaine idée du conformisme dont l'avenir a été dicté par les leurs de parents et qui n'arrivent pas à expliquer pourquoi lui s'est révolté et pas les autres.
Je ne suis pas d'accord parce que...
certains parents ont très bien pu comprendre et justement s'apercevoir que eux avaient vécu ils avaient vu une vie trop conforme aux règles et ils ont pu se dire qu'il fallait changer d'attitude avec leurs enfants.
La question est la suivante. Qu'est-ce qu'un film à succès? Le cercle des poètes disparus, par exemple. Un film dont on ne retient à l'examen ni plan, ni séquence particulière, mais qui a fonctionné, comme disait Serge Danet, par le simple spectacle des situations et des personnages filmés, au tout premier degré, sans aucune médiation ni recul. Il ajoutait « Qu'est-ce qu'un phénomène de société ? Ce n'est pas un film qu'on aime, c'est un film qui nous aime déjà. » Or, ce film n'a pas essentiellement fonctionné uniquement auprès des 15-20 ans. Chacun a pu se projeter, même dans une histoire loin de nous, où l'on assiste, comme le dit encore Serge Danet, à une conception tarte et si élitaire de l'initiation à la vie, à la découverte des valeurs. Cet hiver, notre attention a été attirée par la lettre d'une enseignante d'Arras, Françoise Schulz, qui nous parlait du désarroi psychologique de ses élèves et du rôle emblématique du cercle des poètes disparus. Nous sommes allés dans son lycée et nous avons donné le film en pâture aux adolescents, aux professeurs, aux proviseurs. Le suicide récent d'une adolescente dans un autre lycée d'Arras a encore amplifié le dénouement tragique du film et les témoignages des adolescents. Françoise Schulz.
Oui, la première fois que j'ai vu le film, c'était uniquement un extrait dans la bande de lancement à la télévision et ça m'a décidé à ne pas y aller. C'était la séquence où les élèves montent sur la table. Et il me semblait qu'il y avait une contradiction dans la mesure où leur disait « Ne soyez pas conformistes, mais faites comme moi, montez tous sur la table à la queue l'un derrière l'autre. » Donc ça m'a semblé un peu bête et je me suis dit « Bon, je n'irai pas voir le film. » Après, j'ai entendu que les adolescents allaient en foule voir ce film et bien sûr, à l'école, ils nous ont demandé d'organiser des séances collectives, des déplacements au cinéma. Je leur ai dit, finalement, il me semble que c'est votre film, plus que le film des profs, alors allez-y sans nous, allez-y entre vous, vous êtes motivés pour y aller, vous n'avez pas besoin qu'on vous y conduise. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, il y a de grands élèves de 20 ans, première année de BTS, à qui j'avais promis un film la veille de Noël pour le dernier cours, qui m'ont apporté cette cassette pour passer plutôt ce film-là, en me disant, à chaque fois qu'on voit ce film, on pleure, on est ému, on est bouleversé, on voudrait le passer, vous allez le voir. Et c'est vrai que ils sont restés pendant la récréation. Ils ne sont pas allés fumer leurs cigarettes, ils ont voulu voir le film jusqu'au bout. Et j'ai compris que ce film avait un impact énorme sur eux. Donc c'est la première fois où je le voyais, et ensuite je me suis demandé, je l'ai revu, pour comprendre pourquoi ils l'aimaient tant. Ce qui vraiment les intéressait là-dedans, parce qu'il y avait vraiment un grand hiatus, il y a un grand hiatus entre ces élèves-là, nos élèves, qui sont évidemment des techniques, ici en France, à notre époque, etc. Là, c'est les États-Unis, un collège d'élite, 1959, je crois, puisque l'action est située dans cette année-là. Des gens qui préparent des carrières tout à fait exceptionnelles, qui sont déjà issus d'un milieu très privilégié. Et je me demandais où se faisait le phénomène d'identification. Et finalement, j'essaie de comprendre pourquoi tant d'enseignants n'aiment pas. Je crois que c'est surtout un film qui intéresse les adolescents parce que ce sont leurs problèmes. Alors nous, on a de la chance, on a essayé de dépasser notre adolescence, on croit en être sorti, on croit avoir évacué ces problèmes, et ça nous impatiente un peu. Par exemple, tous ces problèmes de relations entre copains, ces problèmes de chahut, ces problèmes de cours, de devoirs, les premiers titillements, comme il dit, des hormones, etc. Bon, ça nous paraît pas des grands sujets. Nous, souvent, les adultes, on préfère des sujets qui concernent la vie des adultes. Donc finalement, il reste à débattre de ce problème du professeur qui, évidemment, nous, enseignants, nous met bien souvent très mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Et j'ai essayé de me demander pourquoi.
Come on.
Alors, vous venez?
Oh, Captain, my Captain.
Oh, Capitaine, mon Capitaine.
Who knows where that comes from?
D'où est-ce tiré?
Anybody.
Personne.
Not a clue. From a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Walt Whitman. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating, if you're slightly more daring, or Captain, my Captain.
Oh, Capitaine, mon Capitaine. Je vais mettre fin aux fausses rumeurs avant qu'elles ne deviennent des vérités. Oui, j'ai étudié aussi à Welcon. Et j'ai survécu. Et non, je n'étais pas encore le prodige intellectuel que vous voyez. N'était en ces temps reculés que l'équivalent d'un poids-plume de l'esprit. Quand j'allais à la plage, on m'assommait avec les sonnets de Byron reliés pleine peau. Veuillez vous approcher, et contempler tous ces visages sur ceux du passé. Vous les avez bien souvent entreaperçus ici, sans vraiment les regarder. Ils ne sont guère différents de vous, n'est-ce pas? Les mêmes cheveux, les mêmes hormones qui vous titillent aussi. Invincibles, autant que vous croyez l'être. Le monde leur appartient. Ils sont persuadés d'avoir un avenir grandiose, tout comme un bon nombre d'entre vous. L'espoir brille dans leurs yeux, comme vous. Ont-ils attendu qu'il soit trop tard pour réaliser ne serait-ce qu'une miette de leur grand rêve? Parce que, messieurs, figurez-vous qu'aujourd'hui, tous ces garçons fertilisent les chrysanthèmes. Mais si vous tendez l'oreille, vous les entendrez murmurer un conseil. Écoutez-les. Allez, penchez-vous plus près. Vous entendez? Carpe. Vous entendez? Carpe.
Carpe diem.
Carpe diem. Profitez du jour présent. Mes amis, que votre vie soit extraordinaire.
Moi, je n'aime pas du tout, du tout ce film. Je trouve que c'est un film racoleur qui est fait pour attirer une certaine catégorie, les adolescents. Mais ce n'est pas tellement ça qui m'a déplu. Ce qui m'a profondément déplu, c'est le personnage de ce professeur, qui est un petit peu le héros de l'histoire avec le jeune homme qui se suicide.
Monique Mass.
Un professeur que je ne trouve pas sympathique. Et je trouve qu'on lui fait jouer un rôle de professeur contestataire alors qu'il n'est pas du tout contestataire. Qu'est-ce qu'il brise réellement dans cette institution? Rien. Ce sont quand même des jeunes gens qui viennent de la bonne société et qui vivent dans une institution de la bonne société. Et à aucun moment on ne remet en question cette bonne société avec ses moyens financiers et toute la philosophie que ça suppose. Jamais.
Moi, je suis lycéenne et je pense que si j'avais un professeur comme M. Keating, je serais très contente.
Boubou.
Parce que, je sais pas, mais il apporte tellement de choses aux élèves. Ils sont complètement prisonniers au début. Après, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers des parents, ils sont prisonniers du lycée, ils sont prisonniers de leurs études. Et après, il les libère, il essaie de mettre tout ça au second plan et de les faire, justement, le carpe diem, il en parle pendant tout le film. Il essaie de les faire profiter de la vie et il essaie de mettre tous les problèmes des études, tout ça, derrière, c'est autre chose. Et moi, en tant que lycéenne, je pense que c'est pareil pour tout, enfin, pour beaucoup de lycéens, on a plutôt vu le film comme ça. C'était quelque chose, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que, bon, évidemment, c'est important, j'ai pas dit que c'était pas important, mais c'est pas ce qu'il y a de principal. Et il nous apprend justement à faire des, à nous, il nous fait découvrir un peu ce qu'on voit pas, ce que nous, on recherche. On voit plus par rapport aux professeurs qui sont là. Bon, bah, quand les rapports qu'on a avec les professeurs, on n'a pas de mauvais rapports avec eux, mais disons qu'on n'est pas proches et peut-être que même si les professeurs ici n'ont pas voulu lui ressembler, ce qui est compréhensible, je pense que les élèves aimeraient trouver quelque part quelqu'un de proche comme Monsieur Keating.
D'abord, il nous semble qu'il fait du spectacle. C'est-à-dire qu'il il a une approche très exceptionnelle des choses. Par exemple, le cours, il ne va pas le faire en classe, il va les faire sortir dans le couloir. Il leur fait du mime, il leur fait des mises en scène, il les emmène jouer au ballon. Les circonstances sont tout à fait différentes de celles dans lesquelles on enseigne. Il vit en internat, dans l'établissement, où vivent aussi ses élèves. Donc, pour lui, cette petite chambre, trop exiguë, comme on le dit dans le film, c'est un sacerdoce de vivre là, et de vivre avec ses garçons, la vie qu'il a vécue aussi quand il était adolescent. Donc, ils sont forcément très proches, affectivement. Et là-dessus, je pense qu'il est sur un terrain très difficile, très dangereux, parce qu'il y a un attachement qui va se produire. Et nos élèves disent qu'ils n'ont jamais eu de prof comme ça et qu'ils en voudraient un. Alors que nous, on se dit qu'on ferait tout pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Non pas parce qu'on a peur de s'engager ou des responsabilités, mais ça nous semble un terrain très mouvant et on croit qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut créer des phénomènes d'attachement avec nos élèves, on peut leur permettre sur nous des investissements affectifs, une sorte de transfert où on devient la mère idéale ou la femme idéale, la prof idéale ou le père idéal, le prof idéal si on est un monsieur, un prof homme. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? On va avoir des débordements, on va avoir des attachements excessifs, on va pas pouvoir gérer et on a excessivement peur d'être en difficulté parce que notre rôle s'arrête à la porte de la classe.
Papa ?
Oui.
Avant que tu me dises quoi que ce soit, je vais t'expliquer.
C'est interdit de discuter. Il est bien assez grave que tu aies perdu ton temps avec ces bêtises de saltimbanque. Mais en plus, tu m'as menti délibérément. Voyons, tu espérais que je verrais rien. Réponds-moi. Qui t'a mis tout ça en tête, hein? C'est comment déjà? C'est Monsieur Keating?
Non, c'est personne. Je voulais te faire la surprise, c'est tout. J'ai eu la note maximum dans toutes les matières.
Croyez que ça passera au bleu, hein? Oh, ma nièce joue une pièce avec votre fils, dit Madame Marx. Non, je dis, impossible, voyons, mon garçon joue une pièce. Alors pour elle, je suis un menteur. Bien, demain, tu vas les voir. Et tu leur dis que tu abandonnes.
Non, ça non. J'ai le rôle principal et la pièce doit passer demain soir.
Écoute, même si le monde doit s'écrouler demain, tu ne joueras pas cette pièce. Est-ce clair? Est-ce que c'est clair?
Très clair.
J'ai fait d'immenses sacrifices afin de t'inscrire ici. Et je ne veux pas que tu me déçoives.
Non, papa.
C'est quand même porté sur le suicide. Donc, faut quand même... Faut aimer, faut... C'est-à-dire, faut le prendre du bon côté, parce que si, des films portant sur le suicide, c'est pas tellement bien aimé. Ça fait trop bien voir la réalité. Ça plaît pas aux gens, des fois. Mais autrement, quand on regarde un aspect... L'aspect général du film, c'est un film intéressant. Ça montre comme quoi le suicide, c'est pas ça peut arriver à n'importe qui et pour n'importe quelle raison, même des petites raisons banales. Bien comme là pour Neil, l'amour du théâtre, mais c'est pas ça ou pas le coup de perdre la vie parce qu'on peut pas faire du théâtre, mais faut comprendre les choses.
Personnellement, je ne ressens pas du tout la même chose que lui parce que c'est vrai, il y a un suicide, mais ce n'est pas vraiment les suicides qui priment. Je crois que c'est les cours qui priment en particulier. C'est le professeur Keating qui montre vraiment l'histoire, quoi, parce qu'il fait des cours qui sont un peu loufoques C'est plus des cours de philo que des cours de français normaux. Mais je pense pas que ce soit le suicide. Le suicide, il est là pour faire montrer, je pense, que l'administration n'a pas toujours raison en accusant Keating de la mort de Neil.
Keep ripping, gentlemen! This is a battle! A war! And the casualties could be your hearts and souls. Thank you, Mr. Dalton.
Armies of academics going forward, measuring poetry.
No! We'll not have that here. No more, Mr. J. Evans Pritchard. Now, my class, you will learn to think for yourselves again.
Non, du bon, monsieur. C'est une bataille, une guerre, dont les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes.
Merci, monsieur Dalton.
Ah bah, ces académiciens frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, non, nous n'en voulons pas ici, chassons tous les Pritchard. À présent, dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Je vois dans l'œil de M. Pitts, là, que la littérature du 19e siècle n'est d'aucune utilité pour la banque ou la médecine. Hein? Vrai? Peut-être.
Monsieur Hopkins est bien d'accord, vous pensez, oui, bornons-nous à apprendre notre monsieur Pritchard et à annoncer nos rimes, et puis nous attaquerons notre programme réel, satisfaire nos vraies ambitions.
Bon, ben, on est dans une période difficile, l'adolescence, mais on a besoin d'affection, on a besoin de rapports, on a besoin de découvrir, c'est l'époque où on découvre tout, toutes les choses nouvelles. On parlait tout à l'heure du monde d'adulte, on n'y est pas encore, mais quand même, on baigne dedans, on est confronté à eux. C'est un peu un passage dans le film. Il essaye de les faire prendre conscience que justement c'est bientôt ce monde d'adultes. C'est pour ça qu'il part de l'administration en disant « faites attention ». Mais ils ne le comprennent pas comme ça. Les élèves justement restent dans le monde des adolescents, justement en relevant des défis.
Oui, mais finalement la conclusion qui ressort, c'est qu'il a complètement échoué.
Il a échoué, mais il est parti, d'accord, il est parti, mais les élèves qui sont montés sur la table à la fin, est-ce oui. que c'est échoué? Est-ce qu'ils n'ont pas complètement changé?
Je n'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Pour moi, le film aurait été très bien s'il avait poursuivi et si l'on avait vu le destin des jeunes gens quelques années plus tard pour voir ce qu'ils seraient devenus. Et là, je ne suis pas sûre que le professeur a totalement réussi.
Mais il aura quand même ouvert les yeux, je pense.
Oui, mais avait-il besoin du professeur pour ouvrir les yeux?
Ils ont changé. C'est la preuve que oui, je pense.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si au fond d'eux-mêmes, ils ont changé. Parce que...
Vous pensez qu'ils ont... Justement, ça serait plutôt le contraire. Alors, il a fermé les yeux aux élèves. Il les a empêchés de voir correctement. Il les a fait un peu fuir la réalité.
Moi, je pense que, d'une certaine manière, il leur fait fuir la réalité. Parce que dans le monde qu'ils vont vivre ensuite, ça ne se passe pas... Comme il a essayé de leur faire
comme
croire.
Lui la vie. Parce que lui, il la vit comme ça.
Mais lui, de toute façon, il a raté sa vie. Complètement.
La prof, c'est qu'il retourne au lycée.
I have a little secret for you. Huddle up. Huddle up!
J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons, approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman... Oh moi, oh la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela, oh moi, oh la vie? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime?
Keating, dans le film, finalement, dit aux élèves, quand ils vont commettre des imprudences par rapport à l'administration, il leur dit sucez la substantifique moelle, mais ne vous coincez pas le gosier avec l'os. Il leur dit quelque chose comme ça, d'ailleurs de dire soyez prudents. Manœuvrer avec prudence par rapport au règlement, par rapport à l'administration. Il leur dit aussi le cercle des poètes disparus, la grotte, la nuit. C'était possible de mon temps, mais je doute que l'administration actuelle l'admette. Donc lui, il voudrait leur faire comprendre qu'il y a un sens des réalités. Que par exemple, par rapport au père, il faut négocier, il faut discuter. Et ça, le gamin ne le fait pas. Il triche, il ment, il ne dit pas à son père qu'il continue à faire du théâtre. Et finalement, le gamin se sent piégé. Mais ce que je pense qui le piège, c'est que ce gamin, là, dans la fin est tragique, est coincé entre le fait de ne pas décevoir son professeur et de devoir obéir à son père. C'est-à-dire que le professeur a pris une telle importance qu'ils veulent absolument tout faire pour lui plaire. C'est étrange de constater que mes élèves ont dit que s'ils avaient fait de la poésie, s'ils étaient allés dans une grotte, c'était pour faire plaisir à son professeur, à leur professeur. Pas pour se faire plaisir à eux, mais pour reproduire en somme un peu ce rêve, ce mythe qu'il avait vécu, pour lequel il était célèbre, puisque c'est dans l'agenda du collège, dans l'annuaire du collège. Donc c'est faire plaisir au prof, aller jusqu'au bout, lancer des défis, violer la loi pour ne pas le décevoir, pour être à la hauteur.
Michel Thomas était le plus jeune proviseur de France lorsqu'il est arrivé au lycée Carnot. Sa fonction exige de lui de rester constamment en prise directe avec les problèmes de la société.
La situation qui est exposée dans le film, c'est à peu près, je vais dire, à l'inverse des situations que nous vivons dans l'établissement. Parce que là, vous aviez une situation figée, un établissement qui est figé sur des dogmes sociaux, une organisation, tandis qu'actuellement, l'école... Et une école qui reçoit de plein fouet le vent du large, et le vent du large, c'est tout ce qui entoure l'école. C'est-à-dire que nous sommes soumis aux mêmes influences que la société, c'est-à-dire les problèmes de toutes les forces qui agissent dans la société. Bon, la violence, la drogue, la culture pop, l'attitude consumériste. On peut dire qu'actuellement l'école n'est chez nous, le système n'est pas figé, et que donc l'autonomie, la liberté, c'est presque même l'individualisme, c'est devenu presque une norme, beaucoup plus qu'un système organisé et centralisé. C'est-à-dire que la diversité est devenue presque une norme dans notre société, y compris dans l'école, et surtout l'absence de référence à un modèle unique. Nous sommes dans une société qui est, j'allais dire, pluraliste par essence. Je dirais même que par certains côtés, elle prône l'individualisme au sens mercantile du terme, l'aspect consommateur. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des élèves qui viennent chercher ce qui les intéresse. Et que là, on a du mal, nous, c'est dans l'autre sens que se fait les choses. C'est que parfois, on est obligé de rappeler que l'école a un but plus général, collectif, et qu'on est obligé de rappeler le maintien de règles collectives et qu'on ne peut pas satisfaire à la juxtaposition de demandes individuelles. Et ça, c'est une évolution fondamentale. Dans l'école, nous sommes soumis à des pressions contradictoires, des attentes contradictoires des milieux sociaux, des zones géographiques. Le rôle de l'école dans telle zone, dans telle banlieue ouvrière, n'est pas forcément le même qu'un établissement de centre-ville. Pourquoi ? Parce que l'attente des parents n'est pas la même. Et que nous sommes soumis à des lieux de demandes contradictoires et que nous sommes parfois obligés de rappeler des règles de vie collective et des exigences collectives qui sont même contraires aux demandes individuelles.
Pour ce repas que nous prenons ensemble, pour toute joie, nous te louons, Seigneur. Amen.
Ça parle d'un niveau de société, je pense, aux États-Unis. Donc c'est pas des enfants de mineurs ou trucs comme ça qui sont dans ces écoles-là. C'est des écoles assez chères. Et puis c'est une certaine société, la haute société. Donc forcément les enfants suivent. Hein,
et vous avez l'impression de vous sentir plus libre que ces gens-là qui viennent d'une société
Ben déjà, quand on regarde le début du film, qui viennent d'arriver en classe, qui viennent d'arriver au lycée, où il y a les bannières qui se ramènent avec des mots que je n'ai pas retenu, mais qui veulent signifier un peu la pensée du lycée, on voit tout de suite, on se met tout de suite le contexte dans la tête, hein, on voit ce que c'est comme lycée. Puis aussi les professeurs, par le monsieur Keating qui est assez cool, le reste c'est des cours vraiment durs avec pas le droit de bouger, de dire son avis, c'est pas du tout libéral. Puis comme nous on est à l'école, on peut faire facilement la différence avec eux, peut-être plus que les personnes âgées qui étaient, d'abord sont pas allés beaucoup à l'école et puis... qui, quand ils y étaient, c'était assez sévère encore. Donc, pour nous, on se met mieux dans le contexte. C'est peut-être pour ça que ça plaît plus aux jeunes. Ou peut-être aussi l'attitude du professeur. On se dit, ouais, des professeurs comme ça, j'en ai jamais eu, mais on voudrait bien en avoir un jour comme ça, parce que c'est vraiment... On se pose des questions sur nous-mêmes. Si on avait un professeur comme ça qui nous remet tout en cause, on doit vouloir chercher à savoir tout ce qu'il dit, le rapport que ça a avec nous, ce que ça pourrait nous changer. Faut que c'est génial. Puis il y a aussi un peu l'attitude aussi des autres professeurs là, dans ce lycée-là qui n'est pas du tout la même, qui ne comprennent pas vraiment. Comme quand il fait marcher tout ça pour leur faire découvrir des nouveaux trucs, alors rien qu'en marchant, alors qu'ils font ça tous les jours. C'est drôle, on est surpris par le type d'enseignement.
Ouais. Peut-être le rapprochement. Bon, Keating, on a l'impression qu'il est rénovateur, mais en fait, je sais pas, il effectue peut-être un retour aux sources, parce que bon, quand moi j'ai fait du grec, j'ai étudié Socrate, tout ça, on trouve à peu près les mêmes méthodes. Socrate, il travaille en marchant, Keating, il fait marcher. Il travaillait avec 100 livres. Il leur fait arracher les pages. Socrate faisait apprendre en discutant avec des gens. Il leur faisait dire la vérité, mais sans leur dire directement. Il les faisait réfléchir et leur faisait admettre la vérité. C'est un peu ce que Keating veut faire découvrir à ses élèves. Donc, pour le... La rénovation, enfin un professeur comme ça, on se dit que c'est idéal tout ça, c'est nouveau, mais c'est plutôt un retour aux sources.
Voilà, c'est pas du tout ce que nous on connaît. Enfin, je parle pour moi, je suppose que c'est quand même pour tout le monde presque. C'est totalement différent, on peut pas, point de vue de l'éducation, on peut pas s'identifier à aucun personnage, c'est carrément différent.
Et alors pourquoi vous les aimez ces personnages?
Ben, peut-être parce qu'ils se laissent pas, en fait, qu'on voit bien à la fin du film... Quand Anderson et ses amis montent sur la table, qu'ils ont vraiment compris ce qu'on leur a dit, quoi. Ce qu'on leur a fait, ce que M. Keating leur a fait comprendre pendant tout le temps qu'il les enseignait. Je crois qu'ils ont vraiment compris le message qu'ils ont changé par rapport au début. Ça s'est rien passé. Je crois qu'il n'y en aurait aucun qui serait élevé pour la mort.
Et vous, vous êtes levé à la fin du film?
Ouais, pour partir.
À la première vision, malgré mon âge, je pleurais comme une madeleine. Et à la septième ou huitième vision... Installé dans mon canapé devant une vidéo à la télévision, c'est-à-dire dans les plus mauvaises conditions possibles, je m'apercevais que je ne pleurais peut-être plus comme une madeleine, mais j'avais quand même les larmes aux yeux. Parce que là, il y avait quelque chose qui était extrêmement fort, qui était qu'à travers le passage même de la mort, il y avait quelque chose de très profond qui avait été fécondé, qui était que, effectivement, partons à la conquête d'un nouveau monde, nous ne saurons jamais rien céder. Et là, effectivement, on voit ce nouveau monde. Qui est ouvert. Et le fait que, quelles que soient les contraintes et quel que soit l'ordre social, quelle que soit la force même de l'opinion non fondée, pour reprendre des termes d'un philosophe bien connu, le soleil de la vérité a commencé à luire. et qu'aucun autre sang ne peut rien.
Michel Cazenave et une étudiante en philosophie, Raya Monzin, confrontation.
Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'à travers ce jeune homme qu'il éveille au théâtre, en fait, beaucoup plus qu'au théâtre, si on essaie de réfléchir un peu au fond même de la situation, à quoi il l'éveille, c'est au pouvoir de l'imagination. C'est-à-dire le moment où il est capable de transcender le monde dans la création d'un monde autre. Et en plus, ce n'est quand même pas pour rien que lorsqu'il joue, c'est du Shakespeare, et ce n'est pas non plus n'importe quel Shakespeare, puisque c'est le songe d'une nuit d'été, et qu'il joue le rôle de Puck. C'est-à-dire celui, justement, qui est le metteur en scène des enchantements. Donc, le metteur en scène de l'imagination, ce qui devient véritablement le thème de l'imagination créatrice. Et que, de ce point de vue-là, on se retrouve devant le vieux thème de méditation philosophique, justement de l'imagination créatrice telle qu'elle est, telle qu'elle peut se déployer lorsqu'elle se heurte au monde commun, au monde de l'opinion, au monde de la doxa dont je parlais, et où un véritable combat à mort, parce que un combat métaphysique, un combat ontologique est en jeu. Et qu'il s'agit de savoir ce qui peut l'emporter, effectivement, de la force de l'imagination qui superpose un autre monde et un monde plus réel au monde dans lequel nous vivons, ou au contraire, le simple monde de l'opinion pour lequel les choses sont comme elles sont, parce qu'elles sont comme ça. C'est-à-dire, en fait, sans aucune justification et sans aucune légitimité. Et où, finalement, c'est à travers cette mort, parce que l'ordre ne peut pas supporter, évidemment, une telle subversion. Parce que ça va encore beaucoup plus loin qu'une subversion politique, c'est une subversion quasiment ontologique du monde dans lequel nous vivons, ne peut que le pousser à mort, et en même temps, par effet de retour, ne peut que dévoiler la vérité de cette position. D'où, effectivement, la dernière scène du film. C'est-à-dire le moment où les élèves sont capables de prendre cette vérité en charge.
Raya Monzin, vous acquiescez à cette analyse ?
Oui, j'acquiesce, c'est intéressant. Mais j'ai un point de vue peut-être plus critique, moins approbateur devant ces scènes qui ont été décrites. Notamment une des scènes, qui est la dernière scène, celle où le jeune homme va mourir, qui pour moi est surexplicitée, surexplicitante, où on voit les parents se coucher, mettre les deux pantoufles l'une à côté de l'autre, à côté du lit, montrer le conformisme d'un côté et le côté extraordinaire du jeune homme en dehors de l'ordinaire. Et alors, il arrive du théâtre dans la scène, il a sa couronne d'épines sur la tête, il la pose, il ouvre la fenêtre, il neige dehors, il a le torse nu devant la fenêtre et il remet la couronne d'épines et il écarte les bras comme une figure christique. Et c'est le jeune homme qui va se sacrifier pour les autres. C'est celui qui va sauver aussi les autres élèves d'une certaine manière. Mais pour cela, il va falloir qu'il meure. C'est la figure du sacrifice pour sauver le reste du collège. Malheureusement, on n'y croit pas beaucoup. C'est vrai que les larmes viennent, c'est vrai que cette scène est émouvante, mais je me sens, en tout cas en ce qui me concerne, manipulée par le cinéaste. Il a voulu que nous soyons émus, effectivement. Mais est-ce que cela nous apporte quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'adhère pas à ce type de film au départ. Par ailleurs, il y a une autre scène aussi qui m'a fortement déplu, parce que je ne sais pas quel est le propos du cinéaste à ce moment-là, quand le professeur Keating est dans la classe et fait l'apologie de la poésie et se met à imiter plusieurs acteurs de cinéma, Marlon Brando, John Wayne. Pour moi, ça m'a ramené vraiment à l'idée de l'acteur studio, la méthode Stanislavski, cette espèce de, oui, il faut se sentir bien dans son corps, il faut chercher au fond de soi-même qui on est, essayer d'exprimer par un secret barbare, Iop, sa force, sa violence, et de manière à persévérer dans son être, à être totalement soi-même. Mais est-ce que c'est véritablement comme ça qu'on peut être soi-même, en faisant de la gymnastique ou en sortant sur des bureaux? Je suis pas vraiment sûre. Pour moi, il leur a donné un excellent cours de théâtre, je suis pas sûre qu'il leur ait donné vraiment un bon cours sur la vie ou sur la poésie.
C'est vrai, par exemple, il y a cette scène de théâtre où on imite les acteurs, on imite Marlon Brando, c'est vrai, et tout de suite, évidemment, une citation de Jules César de Mankiewicz, etc. Bien, bon, enfin, en même temps, quel est le but? C'est de faire rire la classe. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas du tout sérieux, au contraire, on est en train de le démythifier, ça. Et que lorsqu'il y a ce fameux yao, là, ce cri qui sort, il sort quand même à travers les paroles mêmes d'une poésie de Whitman.
C'est-à-dire, on est là quand même dans la grande tradition américaine du romantisme. Du romantisme et de la remise en cause de la société, et renvoyant à l'ancêtre de toute cette poésie qui est Henry Thoreau, c'est-à-dire la désobéissance civile. D'ailleurs, l'un des textes fondamentaux de Thoreau s'intitule ainsi, la désobéissance civile. C'est-à-dire le moment où l'individu ne peut exister que, d'une part, en communion avec un ordre cosmique. Or là, il y a quand même assez de citations qui sont faites de Thoreau, de Whitman et de Tennyson à travers le film, quand même, pour qu'on veuille bien penser que ce n'est pas tout à fait par hasard que s'y a été mis. Donc c'est ce sens-là que ça prend, la communion à travers un ordre cosmique, et à travers ça, effectivement, la révolte contre la société qui empêche cette communion. Alors, il y a une telle insistance là-dessus que je veux dire quand même...
Mais vous trouvez vraiment qu'il y a la désobéissance ?
Le cinéaste nous donne une des clés, il nous l'étend les clés. Alors, oui, on s'en sert ou on s'en sert pas.
Est-ce qu'il y a de la désobéissance dans ce film ? Le problème est là aussi, est-ce que...
Mais justement, c'est ça, je crois, qui a été un des contresens. C'est de se dire, la désobéissance civile au sens de Thoreau, dans son texte. Hein, c'est un sens très précis. C'est-à-dire que le problème du film n'est pas tellement la désobéissance en tant que telle. C'est de dire et d'affirmer qu'il y a d'un côté une puissance mortifère, effectivement, qui est représentée par la société, par une société qui ne réfléchit pas sur elle-même, et qui est justement une société de gagneurs. Car le père de celui qui se suicide, il n'a que le succès à la bouche. Et il ne parle que de ça, et c'est à ça que l'on doit tout sacrifier.
Exactement.
Et il ne comprend pas pourquoi son fils veut faire du théâtre, puisque ça ne sert à rien. C'est inutile. Or, quand même, dans son sacrifice, et effectivement, c'est très christique, ça je suis bien d'accord, le fils admet, au contraire, impose l'idée que l'inutile est au-dessus. Donc, je veux dire, là, je crois on y semble quand même très très loin d'une morale américaine, d'une morale américaine traditionnelle. Et de ce point de vue-là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir aussi la manière dont Peter Weir reprend tout le temps le thème du Carpe Diem, bon, qu'il fait venir d'Horace, évidemment, retient le jour, etc. Et de voir comment, en même temps, Il le subvertit complètement. Parce que dans Horace, quand même, si on revient au texte, nous sommes quand même dans un contexte épicurien. Or là, au contraire, il le fait servir d'une manière tout à fait héroïque. Puisque dès la première fois où le Carpe Diem vient, dans cette première leçon, ça se termine par « et que votre vie soit extraordinaire ». Ce que Horace n'aurait jamais dit. Mais jamais. Et donc, au contraire, là, il reprend... Ce qui peut être, et c'est là où je pense qu'il y a justement tout un ensemble de malentendus. C'est que là, il reprend quelque chose pour lui faire dire pratiquement le contraire de ce que l'on pouvait penser au départ. C'est-à-dire que, à nouveau, c'est ce que l'on va trouver, alors tout à fait à la fin, lorsque Keating reprend le texte de poésie qui était celui du jeune homme qui s'est suicidé et qu'il trouve là, à nouveau, cette citation de Thoreau, qui est sur la page de garde, qui se termine, et que je ne voudrais pas, quand je serai vieux, découvrir que je n'avais pas vécu. Alors, c'est pas tellement la désobéissance que plutôt la dévaluation complète des normes sociales auxquelles on est confronté. Et à travers quoi ? À travers les pouvoirs de l'imagination. Et je le répète, de l'imagination créatrice. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est quand même dans une tradition qui est très très proche de la grande tradition de l'amour, de la beauté, de la poésie. C'est-à-dire la tradition platonicienne. Et je dis ces trois mots, ce n'est pas pour rien. Parce que Keating le dit, les mots peuvent changer le monde. Ils peuvent changer le monde, hein. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et il donne trois exemples qui sont justement la poésie, la beauté, l'amour.
Go on. Rip out the entire page. You hear me? Rip it out. Rip it out! Go on. Rip it out! Thank you, Mr. Dalton.
Arrachez-moi toute la page, allez.
Vous m'entendez? Déchirez-la. Déchirez-la! Allez, la page entière. Merci, monsieur Dalton. Messieurs, j'ai une idée. Cette page ne suffit pas. Arrachez toute l'introduction. Qu'elle tombe aux oubliettes de l'histoire. Qu'elle disparaisse. La part du diable. Va-t'en, J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. Je ne veux entendre que le bruit de la déchirure pritchardienne. Et on mettra ça sur un clou au petit coin. Ce n'est pas l'évangile, vous ne grillerez pas en enfer pour ça.
On peut pas faire ça.
Allez-y. Pas de quartier, je veux qu'il n'en reste rien.
C'est exagéré.
C'est risqué, faut pas faire ça. Risque pas, Cameron. Arrache, arrache.
Déchirez tout.
Ah,
avec les élèves du lycée Carnot d'Arras, l'émotion passe aussi par l'agitation des micros.
Mais finalement, il fait mal son travail, il va beaucoup trop vite. Dans un lycée où on voit que la discipline est si stricte, on ne peut pas apprendre à une classe d'élèves qui sont aussi disciplinés à devenir cool en l'espace d'une séance de français. Il va beaucoup trop vite pour faire ça. Déjà, ils sont surpris quand...
Tenez bien le micro.
Ils sont surpris quand ils doivent arracher la page. Et il aurait fallu s'en tenir là pendant un petit bout de temps pour après leur parler de cette grotte, du cercle des poètes disparus, tout ça. Donc à mon avis, Keating, il va beaucoup trop vite pour détendre l'atmosphère.
Mais Keating a répondu à l'appel des élèves, à leur demande, quand il leur a demandé... Les élèves lui ont demandé ce que c'était le cercle des poètes disparus. Il leur a répondu honnêtement, parce que Keating... veut leur montrer sa confiance, quoi. Il a une classe d'élèves, il veut montrer qu'il a confiance en eux et puis que...
C'est quand même lui qui a introduit le sujet aussi. C'est lui qui a parlé de ça, voulant créer l'intrigue sûrement.
C'est pas lui qui l'en a parlé. C'est un élève qui est venu avec un ancien bouquin de son époque à Keating qui était élève et qui lui a demandé ce que c'était.
Alors, quand vous dites qu'il va trop vite, pourquoi vous dites qu'il va trop vite?
Bah, en l'espace de 3 séances de français, il leur fait arracher les pages, il leur fait découvrir leur démarche stricte, il leur fait voir trop vite leur monde à eux, quoi. Il essaye... Non, je peux le tenir. Il essaye de comparer tout de suite leur monde avec ce qu'il y a dans le monde extérieur, en dehors de leur école. Donc à mon avis, il va beaucoup trop vite, quoi.
Je pense qu'il faut quand même vivre dans les règles, parce que le professeur a vraiment trop d'anticonformistes. Comme je vois le professeur qui fait monter les élèves sur les tables pour avoir une autre version de la vie, bon, c'est bien, mais je ne pense pas qu'on puisse faire ça pour tout le monde. Enfin, moi, je vois... Il y a beaucoup d'adultes qui ont trouvé ce film, qui ont la même version que moi. Moi, je suis plutôt d'accord avec eux qu'avec les adolescents. Parce que, voilà, je trouve que j'ai beaucoup apprécié, mais je ne suis pas tout à fait d'accord.
Vous trouvez ce film dangereux?
Oui, assez, parce que ça pourrait inciter certains élèves ou certains professeurs, enfin, moi les professeurs, mais certains élèves à se révolter. Et je pense qu'on est bien avec des professeurs quand même assez stricts.
Est-ce que vous souhaitez... qu'est-ce que vous attendez d'un professeur?
Un professeur, j'attends qu'il nous fasse travailler, tout d'abord. Et puis, évidemment, s'il n'est pas tout à fait sympa, comme on le veut, ce n'est pas grave du moment qu'il nous fait travailler. On est ici pour travailler, en fait. On n'est pas ici pour s'amuser.
Moi, j'ai entendu des amis qui me disaient que c'était malsain, ce film. Je comprends pas, justement, j'ai pas bien compris pourquoi ils ont trouvé le ça malsain. Peut-être parce que c'est peut-être un peu une forme de jalousie, peut-être qu'ils ont pas trouvé ça.
C'est sûr qu'on fait un métier de spectacle, on fait un métier de séduction, et il faut qu'à chaque heure, dans une classe différente, on soit performant, séduisant, qu'on accapare l'écoute, etc. Mais il a des méthodes vraiment un peu fortes. Quand il fait dire de la poésie à cet élève qui n'avait pas composé de poème, quand il le force à venir et qu'il le prend au corps, il le prend aux tripes et il lui dit « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Et l'autre parle des dents qui transpirent, etc. C'est un vrai psychodrame, là. On dirait vraiment une situation, ou bien d'une école de théâtre où on essaie de faire rendre les tripes à un acteur, à un jeune acteur qui n'arriverait pas à s'exprimer, ou bien une situation qu'on peut trouver peut-être dans certaines instances éducatives où on est dans où il y a l'adolescent face à son psychologue ou à son psychiatre ou des choses comme ça. Mais là, bon, il vit toute la journée avec eux. Le gars qui a des difficultés peut venir dans sa chambre le soir, frapper, dire j'ai un problème, je suis tracassée, qu'est-ce que vous pensez que je dois dire à mon père, etc. Mais nous, on fait notre heure, et après on s'en va. Et si on laisse le gars en plein désarroi, si on l'a trop secoué, d'abord il peut être la risée de ses camarades, parce qu'on fonctionne, nous, dans un univers moins privilégié, moins fermé sur lui-même. Là, les garçons sont toujours ensemble, ils peuvent s'épauler, ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes à 6 heures du soir, repartant chacun vers ses problèmes, dans sa campagne, etc. Donc je pense que tout ce qui est dans ce domaine, la manipulation un peu affective, psychiatrique, il faut énormément de précautions, il faut être extrêmement prudent et pouvoir répondre justement. Je pense qu'il sème le vent, récolte la tempête un peu quand je vois ce qu'il fait. Pour nous, ça serait vraiment très dangereux. Il arrive que des élèves tombent amoureux d'un prof, d'une prof, écrivent des lettres d'amour, etc. Il faut qu'on garde bien notre stabilité. Je crois que vraiment être stable psychiquement dans notre rôle d'adulte, c'est l'essentiel pour assumer le métier qu'on fait.
Au secours, les vivants!
C'est marrant, toi, crétin!
Mais arrête! Mais toi, on fume! On n'est pas des harengs sort!
Une seconde, la fumée sort par là-haut, il y a une ouverture!
Non!
Tu t'es fait mal?
Bon!
Alors, il respire encore?
Ouais, ça va, laissez tomber le feu!
Quel clown!
Allons-y, messieurs!
Ça traîne, hein!
Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus.
Ouais.
Oh, c'est passionnant ce que tu dis.
Reste avec nous, Nox. Tu es. Eh oui, Nox, on est tous médecins. Quel est ton problème?
Écoute,
dis-moi.
Cameron, non.
Chris, c'est Chris, il y a une photo d'Alcian, voilà.
Eh oui, regarde, ça va.
C'est plus vrai, au moins.
C'est pas drôle. Fumez vos pipes et foutez-lui la paix.
Neil.
Ami, citoyen, condisciple. C'est quoi?
Qu'est-ce que c'est, Neil?
C'est une lampe, ballot.
Non, c'est. C'est le dieu de la grotte.
Le dieu de la grotte?
Charlie, est-ce que tu
perds du temps, messieurs, si on commençait.
Ce qui est étonnant, monsieur, c'est l'attitude aussi un peu de Dalton. Je trouve, par rapport à toute la bande, un peu loufoque, quand on ramène les filles dans la grotte avec son saxo, avec ses verres là, un peu portés sur le sexe et tout. Ça change, je trouve que ça change vraiment par rapport à ses amis. C'est quelqu'un qui est marquant dans le film. C'est vraiment. Je trouve que c'est lui qu'on remarque facilement parce que. Avec ses bêtises, ou avec tout ce qu'il peut faire un peu extravagant pour les autres.
Sans aucune dérision. Et je vis le Congo serpentin de moire traversant la forêt dans un éclair noir. Et je vis le Congo serpentin de moire traversant la forêt dans un éclair noir. Et je vis le Congo serpentin de moire traversant la forêt dans un éclair noir. Et je vis le Congo serpentin de moire traversant la forêt dans un éclair noir. Et je vis le Congo serpentin de moire traversant la forêt dans un éclair noir.
Non, il y a quelque chose là qui m'intéresse dans ce phénomène de la grotte, c'est que, bon, le cercle des poètes disparus s'y réunit normalement, lisait poésie, etc. Et puis il y a tout à coup le moment où l'un d'entre eux amène deux jeunes filles, qui viennent du monde extérieur. Et alors là, plus rien ne marche. On ne pense plus du tout à la poésie, ces adolescents deviennent idiots. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, du moment qu'ils ont deux jeunes filles là, dont il s'agit immédiatement, évidemment, d'exercer sur elles une séduction, l'imagination, la création, un monde autre que celui dans lequel on est, tout ça n'existe plus. Ils ne sont plus que dans le rapport de séduction le plus bête et le plus simple qui soit.
Ça aurait pu être autrement.
Ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être d'autant plus autrement que l'on voit au contraire la relation de ce jeune Nox Overstreet avec cette jeune fille devant qui il a eu l'illumination d'une certaine manière, et qui, au contraire, ça se passe d'une façon tout à fait différente, c'est-à-dire que devant la force brute de son cavalier en titre, en quelque sorte, il finit par gagner, et il finit par gagner justement à travers la force de son imagination, et il lui prend la main alors qu'on assiste à la représentation de Shakespeare. Et là, évidemment, il y a quelque chose de totalement différent qui nous est dit dans le rapport entre les garçons, entre les garçons et les filles. Mais donc, ce qui m'intéresse dans la grotte, c'est que à partir du moment où le rapport amoureux n'est plus qu'un simple rapport de désir, c'est-à-dire n'est plus un rapport de création amoureuse, mais de désir, alors là, en effet, le cercle des poètes disparus s'effondre, et nous ne sommes plus à nouveau que dans les systèmes de convention. Quel que soit le décor par ailleurs. Et l'initiation devient, au contraire, l'absence de toute initiation.
Oui, justement, ça aurait été intéressant de te montrer justement une vraie, véritable initiation sentimentale. Et les deux jeunes filles qui rentrent dans la grotte sont une des caricatures des adolescentes américaines, un peu vulgaires, le chewing-gum à la bouche. D'ailleurs, elles ont vraiment un chewing-gum, elles mâchent, elles boivent, elles fument des cigarettes, elles sont très comme ça, olé olé. Et je trouve ça un peu dommage, parce qu'on aurait pu un peu approfondir la chose, ça aurait pu vraiment devenir une éducation sentimentale. Effectivement, toute cette idée de société des poètes tombe à l'eau. Et je trouvais ça un petit peu caricatural et un peu dommage. D'ailleurs, c'est un film d'homme. C'est un film d'adolescent masculin. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce film, très peu. Et le peu qu'il y a, c'est cette jeune Chris, qui est cette égérie un petit peu pour le jeune Overstreet, qui en fait n'est qu'une jeune pom-pom girl d'une équipe de baseball ou de football américain, je ne sais plus très bien, et qui n'est pas très maligne en tout cas, on n'a pas l'impression, et qui finalement arrive à fasciner ce jeune homme. Et je trouvais ça un petit peu dommage, on aurait aimé peut-être... Bon, c'est vrai que ce collège n'est pas mixte. D'ailleurs, ça renvoie à l'idée de la mixité après, puisqu'effectivement, il y a après, grâce au cahier de doléances du collège, un des jeunes hommes demande la mixité, puis ça fait tout un rôle de combat dans le collège. Mais ça aurait été intéressant, justement, d'introduire un élément féminin un petit peu plus malin. Je ne voudrais pas faire du militantisme, mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir une femme, ou une égérie, ou une muse. Mais cette muse-là, qui est Chris, est un peu falote même dans le film. Elle n'a pas beaucoup de poids. Elle est juste là, elle lui donne la main à la fin du film dans la pièce de théâtre. Elle donne la main au jeune Overstreet, et puis c'est bon, c'est le bon happy end.
Ça doit être un peu ennuyeux de ne pas avoir de fille.
Oui, c'est pour ça qu'on a ce club.
Au fait, j'ai une autre annonce. J'ai fait passer un article dans le bulletin de Walton au nom des poètes disparus.
Quoi ?
Exigeant que les filles soient admises à l'école.
C'est quoi, vrai ? Comment t'y es arrivé ?
Je corrige les épreuves, alors j'ai passé l'article. En douce.
Le cercle va être foutu.
Pourquoi personne ne nous connaît ?
Mais ils devineront tout de suite qui a fait cet article. Ils vont te tomber dessus et ils te cuisineront sur le cercle des poètes, garanti. Charlie, t'avais pas le droit de faire ce truc-là.
C'est Nuwanda, Cameron.
Oui, c'est plus joli, Nuwanda.
Dites, est-ce qu'on fait semblant ici ou est-ce qu'on défend le cercle ? Si on se réunit juste pour réciter des petits poèmes à tour de rôle, bah on est des vrais héros.
Il y a des moments dans ce film où là, je trouve au contraire que c'est bien vu et ce sont des moments que j'apprécie. Ce sont quand les élèves montrent qu'ils sont en rupture avec leur famille et la société lorsque justement ils écoutent la nouvelle musique, le rock, parce que ça se passe quand même en 1959. Bon, ce sont les premières années du rock'n'roll et on sait que c'est une musique qui a considérablement choqué les familles. Alors là, j'adhère tout à fait à cet aspect du film. Je trouve que effectivement c'est bien vu, mais à côté de ça, je trouve qu'il y a des choses dégoulinantes de bons sentiments qui ne passent pas. Par exemple, bon, le suicide de l'élève, je trouve qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. À la limite, on n'avait pas besoin de montrer ça. C'était inutile.
Ce que nos élèves adorent dans ce film, au moins la moitié des élèves, c'est le côté romantique, le rêve romantique. C'est-à-dire cette espèce de soif d'idéal, de soif d'absolu, d'aller jusqu'au bout. Et peut-être même que la fin tragique fait partie de ce romantisme-là. Le professeur enseigne des poètes romantiques. Il a exclu les réalistes, comme on lui reproche à la fin. Et il leur donne des slogans. Dépasse-toi, va jusqu'au bout, la vie est faite de passion, le reste est nécessaire, mais nous vivons tous pour l'amour, c'est l'amour, c'est les femmes, toutes ces questions qui les tracassent très profondément, qu'il essaie de faire surgir comme un initiateur. Et nos élèves sont en réalité, malgré les apparences, très romantiques.
Qu'est-ce que tu veux ? C'est toujours cette histoire de théâtre. Parce que ça, tu peux l'oublier.
Alors qu'est-ce que c'est? Parle.
C'est rien.
La plupart des films, c'est tout est bien qui finit bien. Mais là, quand même, on reste avec un poids, quoi. Quelque chose, c'est la mort de Neil. Et ça change quand même quelque chose, mais...
Il y a un peu une contradiction, parce que le professeur dit au début « Carpe diem, profite du jour présent ». Et à ce moment-là, si l'élève l'avait bien compris, il ne se serait pas suicidé. Il aurait bon, évidemment, passé 10 ans de sa vie, peut-être pas tout à fait agréable, mais peut-être qu'il aurait pu faire autrement, parce que même si le théâtre, c'était franchement ce qu'il voulait faire, il aurait pu le faire après ses études.
Moi, je trouve que ce que dit Françoise, c'est bien joli, mais tu peux pas juger parce que tes parents sont pas comme ça, d'abord, pour commencer. Et tu dis que toi, t'accepterais de faire 10 ans d'école militaire et après te mettre à ta passion. Mais peut-être 10 ans après, t'auras plus la même vision des choses. Et à mon avis, Neil, au moment où il s'est suicidé, il a réfléchi, mais dans ces moments-là, on réfléchit pas.
Rends-toi compte quand même que c'est tout ce qu'il espérait, tout ce qu'il rêvait, ça vient de s'effondrer en une heure de temps, le temps d'un trajet en voiture et de 5 minutes de conversation avec un père totalitaire. Franchement, je trouve que je supporterais pas d'avoir des parents qui décideraient pour moi.
Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais plutôt été voir Monsieur Keating, qui était presque un deuxième père pour lui. Et là, il l'a pas fait. Je trouve ça bizarre, enfin.
Il peut plus.
Il aurait pu peut-être s'évader ou aller voir Monsieur Keating, puisqu'il l'aimait vraiment beaucoup. Et il avait confiance. Et je pense que c'est... Le suicide, je trouve qu'il est un peu exagéré. C'est pas vraiment la bonne solution, je trouve.
Je sais pas, quand on dit que c'est une fiction, d'accord, mais ça doit sûrement exister, des personnes à qui on coupe les ponts... d'une passion qu'on a depuis toujours. Et je sais pas si j'accepterais le fait qu'on m'interdise quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Je ne sais pas.
C'est rien. Dans ce cas, allons dormir.
Dans ce film, on peut voir deux fins. La fin tragique de l'élève qui se suicide, oui, parce qu'il ne peut pas réaliser son rêve, finalement. Il se dit qu'il ne le réalisera pas. Et la fin où on voit le professeur qui quitte l'établissement. Alors, si on prend la première fin, je crois que vous avez été dans votre établissement face à un drame semblable.
Oui. Oui, il y a une élève de notre lycée qui s'est suicidée.
Et pour quelle raison? Enfin, si encore on peut savoir.
Je pense pas que je puisse en parler ici. Non.
Mais sans parler directement...
Sans parler directement de l'élève. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de dialogue. C'est ce qu'on revient toujours à la même chose. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aborder ce problème. Bon, on a trouvé ça... Il y a plusieurs de mes amis qui ont trouvé ça choquant dans le film, qui montrent cette scène au ralenti. Parce que c'était vraiment appuyé sur la chose. Dans le film, c'est montré au ralenti. Enfin, toutes mes amies ont trouvé ça choquant. Ils avaient besoin d'insister, tant c'est peut-être la seule chose qui nous est pas plu dans le film, en fait. Ils avaient pas besoin d'insister tant là-dessus. Montrer ça au ralenti, le père qui arrive, les bruits de voix qui sont déformés, c'était...
Insoutenable.
Ouais.
Néo ?
Tom, what is it? What's wrong? Neil.
Neil.
I'll look outside.
Il ressent un impact terrible de cette scène-là. Même les élèves qui ne sont pas attentifs au reste du film, parce qu'ils sont en bibliothèque, par exemple, qu'ils font autre chose, quand vient cette partie du film, ils sont absolument figés sur place. C'est vraiment un drame qui les bouleverse absolument. Et ce qui est étrange, c'est que pour certains, c'est le plus important du film. Je crois que si ce film n'avait pas cette fin-là, il n'y a pas autant d'adolescents qui en parlerait, qui aurait fait un succès à ce film-là. C'est à la fois quelque chose qui les séduit et qui les effraie. Et c'est l'interdit des interdits. Ce qui est étrange, c'est que depuis le début, on parle de la mort. D'abord, quand Keating arrive, les poètes disparus sont tous morts. Regardez-les, ils étaient vivants comme vous, ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient forts. Maintenant, ils sont morts, écoutez leur voix, et ils chuchotent comme s'ils étaient des revenants. Donc, on va écouter la voix des morts. Et les élèves, plusieurs fois dans le dialogue du film, disent « si je fais ça, mon père va me tuer ». Ou je me tuerai pas s'il m'en empêche. Ou il y a souvent des petits mots comme ça qui font allusion à la mort, comme si pour les adolescents il y avait une sorte de flirt avec la mort. Et finalement, souvent face à ces suicides d'adolescents, la cause paraît dérisoire aux adultes. On se demande comment des faits qui nous paraissent pas absolument catastrophiques ont déterminé à un adolescent à une solution aussi décisive et catastrophique, surtout par balle, comme ça se passe là, comme ça s'est passé ici aussi dans les cas qu'on connaît. Et finalement, c'est de la part de mes élèves, ce qui est étrange, c'est que ça paraît souvent une solution courageuse.
Moi, je pense que le suicide n'était pas vraiment la seule solution, puisque à la fin, quand on voit tous ces camarades qui disent... Il y en a même un qui croit pas, qui dit c'est pas vrai, c'est son père qui l'a tué. Il pense pas, en fait, il a laissé sa famille, sa vraie famille, en fait, ses amis, qui formaient le cercle. Un cercle, si on coupe, c'est plus un cercle. Il manque quelque chose. Je crois que c'est pour ça que, en fait, le cercle disparaît, parce qu'il manque un élément.
Dans un monde comme ça, c'est impitoyable quand même. C'est... Les gens qui sortent de ces écoles, ce sont tous des avocats, des gens haut placés. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas vraiment faire place à la sensibilité dans ces écoles. Et lui, il en avait trop.
Et vous, vous pouvez vous laisser aller ?
Non.
Non plus ?
Je suis trop sensible aussi. Donc,
c'est peut-être pour ça que vous aimez ce film ?
Ouais.
Faut être sensible, si on n'est pas sensible, ça sert à rien. On voit quelqu'un le mort, c'est comme si on n'avait rien vu. On peut voir n'importe quel film horrible, sans, enfin pas d'horrible, mais des faits réels comme à la guerre mondiale où on voyait des atrocités, les gens s'en fichent. Faut être sensible, c'est obligatoire. Enfin, je trouve que c'est obligatoire, mais faut avoir du caractère. Faut pouvoir arrêter sa sensibilité à un point, quoi, pour dire, pour se révolter, ou pour dire ce qu'on pense bien haut et bien fort.
Mais c'est vrai que Neil est sensible, et puis Neil, au premier échec qu'il a eu face à son père, il a préféré arrêter là, et puis choisir la meilleure solution qu'il pensait, c'est le suicide. Mais c'est pas vraiment des leçons de sensibilité, c'est des leçons d'indépendance. On le voit quand il est fait marcher dans la cour. Il les voit qui partent tous à une cadence, alors qu'ils marchaient différemment au départ. Il leur dit non, marchez chacun comme vous le désirez. C'est pas de la sensibilité, c'est de l'indépendance.
Moi, personnellement, je pense plus que le professeur, M. Keating, leur donne un souci de liberté, plus de la liberté que de l'indépendance. parce que bon, quand on les voit par exemple marcher, bon, bah, comme il y a un des élèves qui dit, bon, bah, je fais valoir mon droit à l'immobilité. Mmh. Bon, bah, c'est plus de liberté que de l'indépendance. Parce que, aussi pour le suicide de Neil, je pense plus que, bon, le professeur a peut-être joué un rôle, mais surtout c'est son père, parce que son père voulait qu'il fasse médecine. Bon, et Neil, lui, ne voyait pas comme ça, et peut-être parce que depuis sa jeunesse, son père lui disait « tu feras médecine, tu feras médecine », et lui, il voulait faire peut-être du théâtre. Et lorsque son père lui a dit « non, tu feras pas de théâtre, tu feras de la médecine, je vais te mettre dans un lycée militaire », il a reçu un échec, et à force de recevoir un échec, il voit que son père ne changera jamais d'avis, et c'est là où il choisit, je crois, la solution de suicider. Mais je pense pas que le professeur a vraiment joué un grand rôle. Il lui a donné seulement l'envie de liberté. Et bon, à force d'être bafoué, il a choisi sa liberté, mais pas vraiment celle qu'il fallait, à mon avis.
Les spectateurs disent que, en fait, le personnage, le professeur, donne un certain enseignement à ses élèves et que ses élèves ne sont pas en mesure de maîtriser cet enseignement. C'est pour ça que l'accident du suicide peut arriver.
Oui, oui. Ça, bien sûr, mais ça, je dirais que c'est la position très facile. Ça veut dire que, quelque part au fond de nous, on acquiesce à cet ordre. Donc, en effet, Keating devient dangereux. Et quelle est la position de repli à ce moment-là? C'est de dire, effectivement, ils sont trop jeunes pour comprendre. Alors, moi, je dirais, alors, à ce moment-là, ce que disait Claudel, vous le savez, hein, si on n'est pas héroïque, si on ne risque pas sa vie à 20 ans, on ne le fera jamais. Je pense qu'au contraire, il s'adresse à des... Idéalement, bien entendu, nous sommes dans un film, je ne l'oublie pas. Il s'adresse à ceux qui sont le plus capables de l'entendre. Et c'est ça qu'on ne peut pas supporter.
Alors, mais
c'est-à-dire
comment...
que si on se met à le prendre au sérieux, tout le monde dans lequel nous vivons s'écroule. Enfin, on ne peut plus, nous, le prendre au sérieux. Ce que je me demande, si c'est quand même, s'il n'y a pas cette idée que, malgré tout, il existe, bon, pour se servir des grands mots, mais allons-y, un autre ordre de réalité au-delà de celle dans laquelle nous vivons, quotidiennement, qui vaut effectivement que l'on puisse risquer sa vie pour elle. Et peut-être que quand même ça, plus ou moins obscurément ou confusément, les gens, ils sont quand même plus ou moins sensibles.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le film aussi fait le constat d'un certain échec de l'école, enfin de l'institution, de la pédagogie?
Ah, écoute, alors franchement, oui, au premier abord, on peut le dire comme ça. Et franchement, je crois que ça n'a rien à voir avec ça.
Non, je ne pense pas que ça.
En réalité, que l'école est prise... Alors là, nous sommes en nouveau dans des termes très platoniciens. L'école est prise en tant que modèle ou exemple de la société. Mais ce n'est pas l'école telle qu'elle existe réellement qui est visée. Et ça, je pense que d'ailleurs, enfin, toutes les expériences que nous avons faites nous-mêmes de l'école, ou celles que les jeunes d'aujourd'hui peuvent faire, qui est encore alors bien plus permissive que celles que nous avons connues, effectivement, ce n'est pas l'école en tant que telle. Ce n'est pas la réalité de l'école que nous trouvons là. Mais je pense que c'est en tant que microcosme, justement, de la relation pédagogique, c'est-à-dire de la relation de ceux qui transmettent ou qui sont supposés transmettre le savoir dans quelque cadre que ce soit, et donc par là même la transmission de l'ensemble des valeurs qui fondent une société. Et c'est ça qui est visé, bien entendu. Non, ça, je pense pas qu'il faut le prendre pour un film de collège.
Non. Moi, j'étais gênée par le fait que j'avais l'impression que le professeur était plus là pour apprendre que les élèves. Et il y avait une certaine rétention de savoir de sa part, je pense, parce qu'en fait, ces cours, si on regarde bien, on y regarde à deux fois. Bon, il fait rigoler sa classe, il met les rieurs de son côté, mais est-ce qu'il leur apprend véritablement quelque chose? J'ai l'impression plutôt que c'est un cheminement intellectuel de Keating lui-même, plutôt que des élèves. Après, eux, ils en font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que c'est eux qui créent leur propre société des poètes. Et, bon, ils en font leur matière, ils se l'approprient, effectivement, mais Keating n'a plus rien à faire dedans. Il est extérieur à la scène. Et d'ailleurs, quand la mort du jeune homme à la fin arrive, il est totalement... Il est complètement irresponsable, il peut pas, hein, du tout. Mais je pense qu'il a utilisé un pouvoir assez dangereux. Cette espèce de séduction, comme ça, qui existe toujours entre les profs et les élèves, là, est quand même poussée à son paroxysme, sans arrêt dans le film. Et c'est un peu pervers, je trouve. Ça peut prendre... Bon, là, comme dans le film, parce que le film est extrêmement bien maîtrisé du début jusqu'à la fin, effectivement, ça ne dérape pas. Mais justement, ça aurait été peut-être intéressant que ça dérape. Je trouve que ce film nous prend un peu trop dans le sens du poil. On a envie d'être un peu plus brinque-ballé, un peu plus dérangé. Ça manque peut-être un peu de folie, un peu de... Je sais pas. J'avais cette impression-là.
Je vois qu'il n'y a rien à faire, on ne lit pas de la même manière ce film. Ce que je veux dire, c'est... Non, mais justement, j'étais très frappé par quelque chose, c'est de dire qu'il ne leur apprend rien. Or, au sens traditionnel d'apprendre, il ne leur apprend rien, c'est vrai. Et ce qu'il s'agit de savoir, c'est... Je parlais tout à l'heure de relations pédagogiques au sens fort. C'est est-ce que le propre de Keating est d'apprendre quelque chose à ses élèves ?
C'est plutôt de désapprendre.
Or, par rapport à ce que j'ai essayé de dire très maladroitement, c'est qu'il est justement en position socratique. C'est-à-dire qu'il n'a pas à leur dire, voilà, la connaissance, c'est ça, je vous la donne, et puis vous n'avez plus qu'à la recevoir. Il est en fin de compte en train de les décaper sans arrêt de toutes les, à nouveau, je me sers du mot, les opinions qu'ils peuvent avoir et que leur manuel, leur fameux manuel, essaie de leur transmettre. Donc en effet, il est en train de les mettre en position de trouver les choses par eux-mêmes. Et par effet de retour, du coup, que ce soit eux qui soient, ses enseignants à lui.
Oui.
Oui, mais ça, à nouveau, c'est extraordinairement socratique.
Oui.
Ce qui se passe à travers justement cette relation, c'est que, bon, il y a eu deux cercles de poètes disparus. Celui de l'époque de Keating, celui à laquelle nous sommes confrontés. Et que, d'une certaine façon, c'est celui que l'on voit dans le film qui réalise et qui va jusqu'au bout de ce que Keating n'avait pas fait. Et que, de cette manière, la leçon, la grande leçon de la vie, sur le fond, c'est Keating qui la reçoit. Je suis bien d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se trouve dans la proposition inversée dans laquelle c'est le professeur qui apprend. Et qui apprend à travers, en effet, ce que je ne peux vraiment pas appeler autrement qu'une position socratique.
Merci, messieurs. Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Monsieur Pitts prenait son temps, pour lui, il n'y avait pas le feu. Monsieur Cameron, on le voyait penser. Vous, c'est comme ça, peut-être pas. Si, c'était bien. Non, c'était pas bien, je sais pas. Monsieur Overstreet, lui, poussé par une force virile. On sait, ça suffit. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment ». Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure ? Robert Frost a dit « Deux routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Et j'ai compris toute la différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle, chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. Je ne vous demande pas de faire un numéro. Soyez vous-même. Monsieur Dalton, vous ne participez pas ?
Je fais valoir mon droit à l'immobilité.
Merci, monsieur Dalton.
Claire, c'est ça ? Ce qui est marrant aussi dans ce film, c'est au niveau de l'administration du lycée. Quand on voit qu'un élève se suicide, et il faut savoir le pourquoi de la chose, parce que c'est toute une réputation qui va tomber à l'eau. Enfin, c'est ça le truc du film, je crois, qui n'a pas changé. Parce que dans un lycée, il y a un truc qui ne va pas. Bon, on se débrouille, on fait n'importe quoi pour rejeter la faute sur quelqu'un. Mais il faut qu'on trouve quelqu'un qui fait ça, parce que...
Qui sont responsables.
Il faut un responsable, il ne faut pas laisser ça. Et puis, finalement, on voit que parfois, l'administration, elle se plante complètement, comme là, avec le cas de M. Keating, il n'était pas du tout responsable de ce qui s'était passé. C'est pas lui qui... Déjà, c'est pas lui qui a dit à Neil, suicide-toi, t'as plus rien d'autre à faire. Je pense que Neil avait une certaine liberté, il en a usé, il s'est suicidé, c'était son choix, et personne ne l'a cherché. La personne qui est la plus coupable là-dedans, c'est son père.
Que dans les films où on voit des administrations qui se plantent, dans la réalité aussi, il y en a...
Il y a Carnot déjà.
Ouais, voilà, déjà.
Je voulais pas le dire, mais enfin...
Autant qu'on le dise, hein, tous ensemble.
Quoi donc ?
Bon, c'est pas... Ils sont pas souvent près de la réalité, hein. Carnot.
Ouais, enfin...
Peut-être le petit...
Il y a un truc.
Le petit truc qui cloche un peu.
Enfin, il y a une différence quand même avec le film, c'est que... Les profs ont toujours raison et puis les élèves ont toujours tort, quoi.
Lisez. Comprendre la poésie par le docteur J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Afin de bien comprendre la poésie, on doit d'abord se familiariser avec la métrique, les rimes et les figures de style. Et ensuite se poser deux questions. Un, le thème du poème a-t-il été traité avec art? Et deux, ce thème est-il important? La première question définit la perfection de l'œuvre et la seconde son importance. Une fois qu'on a répondu à ces questions, il est relativement aisé de jauger la valeur de l'ouvrage. Si l'on note la perfection du poème sur la ligne horizontale d'un graphique...
Monsieur Keating, on nous a tous obligés à signer. Il faut me croire, je mesure que c'est
oui,
vrai.
Oui, Todd, je vous crois.
Sortez, monsieur Keating.
Mais c'était pas sa
Veuillez
faute.
Veuillez vous asseoir, monsieur Anderson. Encore un seul mot et c'est l'expulsion. Ça s'applique à tout le monde. Sortez, monsieur Keating. J'ai dit sortez, monsieur Keating.
Michel Thomas.
C'est dans un roman Dostoïevski où on a Dostoïevski met en contact, je crois que c'est dans L'Idiot, mais je ne pourrais pas, me semble bien, qu'il met en contact le grand inquisiteur et le Christ. Et que donc, le grand inquisiteur, qui est donc responsable de l'acquisition au tribunal créé par la papauté pour lutter contre les hérésies, c'est-à-dire tout ce qui vient déranger la structure, eh bien, c'est une rencontre fictive, je sais pas, au XVIe ou XVIIe siècle, et où le grand inquisiteur reproche au Christ, et lui dit, qu'est-ce que tu viens faire? Parce que tu viens déranger la structure établie. Et donc, le message de tous les pionniers en tant que tel, à un moment donné, est dérangeant. De toute façon, c'est très simple, je n'invente rien. Toutes les révolutions, les premières victimes des révolutions sont toujours les gens qui sont les porteurs des messages initiaux. C'est parce que, automatiquement, toute chose qui se met en place se structure. Et à un moment donné, il y a contradiction entre la structure qui a tendance à vouloir se pérenniser, ne serait-ce que par sécurité, et puis les gens qui continuent à avancer. Et qu'à un moment donné, dans toute révolution, les idéalistes sont les premières victimes de la révolution. Il y a le langage entre les réalistes et les idéalistes. Bon, c'est vrai dans toutes les... Chez nous, nonobstant, enfin, on n'est pas dans une phase révolutionnaire, mais c'est un peu mutatis mutandis. On fonctionne comme ça. Toute personne qui dérange apporte des choses bien. Et elle peut déranger que dans certaines limites de tolérance du groupe social qui l'entoure. Mais dans le cadre du film, précisément, si les élèves... Et l'esprit des élèves a été formé à autre chose, on peut penser que ce sont des graines qui germeront pour l'avenir. Et je pense que dans la conception du métier d'enseignant, il faut croire à un certain nombre de choses, il faut croire quand même que les valeurs que nous donnons aux élèves, même si parfois c'est difficile, nous défendons des valeurs comme l'esprit critique, le savoir critiquer, ne pas accepter tout, y compris dans la démarche scientifique. Nous défendons des valeurs qui peuvent être considérées comme réactionnaires. Nous défendons les valeurs du travail individuel. La reconnaissance individuelle par le mérite du travail. C'est pas facile de vouloir dire à des élèves, vous réussirez parce que vous travaillerez. Alors qu'ils vous disent actuellement, dans le fond, il y a des tas d'exemples autour de moi qui montrent qu'on peut gagner de l'argent facilement sans rien faire. Nous défendons des valeurs comme ça. Et c'est vrai que parfois même l'image et l'exemple de la société va contre nous. Nous défendons le travail. Nous avons une société qui prône le loisir. Nous défendons, nous disons, vous aurez un diplôme, vous aurez une valeur professionnelle par un diplôme. Et puis on a la télévision qui nous bassine en disant il faut être performant, il faut c'est les valeurs individuelles, médiatiques, etc. qui ont parfois tendance à occulter les éléments de fond. Nous travaillons en profondeur. Moi, je revendique pour l'enseignement le temps et la notion de temps et de durée. Et ça, c'est la chose la plus difficile. On vit dans une société où il faut avoir la récompense immédiate de ce que l'on fait. Donc nous sommes un peu de ce côté-là passéiste.
La discipline.
C'est la même chose. En termes de discipline, la difficulté que nous rencontrons, c'est de faire passer en priorité le primat de la vie collective sur l'individu. C'est vrai aussi bien pour les adultes dans la maison que pour les élèves. Et les élèves de ce côté-là ne sont pas différents du comportement des citoyens de la vie. Comment voulez-vous qu'ils aient plus le respect de la vie collective que les adultes qui conduisent en étant imbibés d'alcool ou qui ne respectent pas les limitations de vitesse? À leur échelle, les élèves ont le même comportement que la société, que les gens de la société. Je dirais même mieux, ils sont mieux.
Oh, capitaine, mon capitaine!
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous! Allons, assis! Dernier avertissement, Anderson. Quelle insolence! Est-ce que vous m'entendez?
Oh, capitaine, mon capitaine!
Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir! Asseyez-vous! Assis! Tous! Je vous ordonne de vous asseoir! Vous entendez? Sortez, monsieur Keating!
Je pense que c'était une fin, pas logique, mais presque, du film. Comment vous voulez... Ça pouvait pas se terminer autrement?
Mais si.
Mais ça aurait pas été un film.
On ne peut pas...
Pourquoi?
Ça aurait pas été un film. Faut aussi penser au film. Vous pensez que... Un élève comme ça, bon ben, admettons, l'élève ne se suicide pas et il réussit ses études, monsieur Keating reste en place, il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas eu de film.
Mais alors à ce moment-là... Ce qui vous plaît à vous dans le film, c'est que c'est une fiction et que c'est très confortable pour l'esprit.
Moi, ce qui m'a pas plu dans le film, c'est la façon dont c'était présenté le suicide. J'ai pas dit que le suicide me plaisait non plus.
J'avais pas dit ça. Je dis l'ensemble du film.
Ouais.
Mais finalement, les histoires romantiques, ça finit souvent par une mort. Voilà. Et c'est ça qui plaît. Et c'est ça qui est fascinant, qui est terrible, qui est bouleversant. Et c'est ça la fascination du film.
C'est le suicide qui nous a marqués, qui nous a tous marqués, je pense. C'est la fin de ce jeune garçon qui est suicidé à la fin uniquement parce qu'il n'a pas pu réaliser ses rêves, parce qu'il a été bloqué par ses parents, parce qu'il a été... C'est son père qui ne voulait pas qu'il fasse du théâtre.
Oui, mais quand même, le professeur échoue puisqu'il n'a pas réussi à apprendre à ce jeune homme à vivre sa vie.
Il a échoué pour un élève. Peut-être que les autres en ont pris, ont appris quelque chose. Même oui. S'ils ont perdu quelqu'un.
Est-ce que lorsque l'événement réel, hélas, s'est passé dans votre établissement, est-ce que vous avez fait une relation avec le film?
Non. Non, on n'a pas fait de relation particulière avec le film. Parce que, bon ben, on n'avait peut-être pas envie de penser à ça.
À ce moment-là,
on a plutôt pensé à la façon dont on aurait pu l'éviter. On a pensé qu'on n'était pas assez proches. On a aussi pensé qu'on aurait dû regarder avant, etc. Mais justement, dans ce film, ils sont proches, les élèves. Mais ça se passe quand même. Ils sont quand même... C'est vrai, c'est un groupe d'élèves qui... Ils sont très proches. Et lui, c'est un peu le chef. C'est le leader. Mais ça se passe quand même. Donc on peut se poser la question. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Mais même si on est proche de quelqu'un, je sais pas si vraiment... On aurait pu communiquer plus avec elle. Est-ce que ça aura changé quelque chose? Parce que dans le film, ce qui m'a surprise aussi, c'est qu'il en a pas parlé. Il avait l'air tellement proche de ses camarades. C'était le leader. C'était lui qui... Il force le camarade, celui qui était un peu timide, à venir avec la grotte. Mais si, viens, dépêche-toi. Bon, il réussit à le faire changer d'avis. Alors pourquoi il n'a pas parlé de ça? Pourquoi il les a laissés? Parce que... Et là aussi, ça nous... Quand on voit les réactions des élèves après le suicide du garçon, ils sont carrément désespérés, ce qui fait que ça nous montre aussi que c'est pas une solution. En fait, c'est comme une claque dans la figure, et c'est pareil pour les parents, qu'ils soient professeurs ou pas. Ils se prennent une claque. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my Captain. Mr. Overstreet, I warn you, sit down. Sit down. Sit down, all of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. Mardi du cinéma, le cercle des poètes disparus, une émission de Marie-Paul Vett. Avec Françoise Schultz, Michel Cazenave, Michel Thomas,
Monique Mass, Sophie François, Raya Monzin et les élèves des lycées Robespierre, Gambetta et Carnot d'Arras. Qu'ils soient tous remerciés. Prise de son et mixage, Patrick Marguerite, Marie-Dominique Bougot, Fabien Leclerc. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 juillet 1992.